Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural. Des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée. Reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, à Kinshasa et dans les autres grands centres urbains du pays, les jeunes gens appelés Kulunda sèment souvent la terreur au sein de la population. On les voit perturber l'ordre public, armés des machettes, des tessons, des bouteilles, et couteaux et autres. Bon, voilà, ils se battent en pleine rue, ils s'illustrent dans des actes de vandalisme et des vols avec brutalité. Alors, qu'est-ce qui est à la base du développement de ces phénomène et quels sont et comment lutter efficacement contre cette forme de délinquance juvénile à travers le pays. Alors Norbert Lupici est sociologue et criminologue, il est à Lubumbashi. Norbert Lupici, d'abord la première question est de savoir pouvez-vous nous rappeler les causes qui sont à la base du développement de ces phénomènes Kulunda ou la délinquance juvénile.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, mais je considère qu'il faut d'abord de faire une petite mise au point.
Oui.
Je pense que la délinquance juvénile, au sens ordinaire du terme, doit être quelque peu distinguée de ce qu'on appelle le phénomène Kulunda. Au fait, la délinquance juvénile, au sens ordinaire, c'est en fait le comportement problématique que posent les jeunes suite à un certain nombre de phénomènes.
Oui.
Mais le phénomène Kulunda tel qu'on le voit, je suis quelque peu sceptique, je me demande si ça fait vraiment partie de la délinquance au sens ordinaire, dans la mesure où nous voyons des jeunes gens avec des machettes, avec des armes blanches. Est-ce qu'il faut vraiment parler de la délinquance au sens ordinaire du terme, ou plutôt il s'agit des bandits tout à fait avérés? Ça, c'est une petite mise au point qu'il sied de placer en début de cette émission.
Alors, donc, on comprend bien que le Kulunda, le phénomène Kulunda, c'est beaucoup plus, il faut parler beaucoup plus du banditisme des rues, au lieu de la délinquance juvénile. Ok, alors, revenons maintenant à la délinquance juvénile. D'abord, comment vous définissiez ces termes, délinquance juvénile? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là?
Merci beaucoup. Et toujours, lorsque je me mets dans ma peau de criminologue, je prononce très difficilement ce terme délinquance juvénile parce que c'est un terme qui relève du registre juridique. C'est-à-dire, il y a des faits que certaines règles ont déjà définies comme relevant de la délinquance. Et celui qui tombe dans ces faits mérite nécessairement une punition. Mais moi, je serais plus à l'aise si je parle plutôt des situations problèmes impliquant les jeunes que des délinquances juvéniles.
Alors, quelles sont ces situations?
Ok. Mais maintenant, je préfère, comme en notre qualité de chercheur, nous appuyons généralement sur des chercheurs, d'autres chercheurs, je préfère plutôt parler des gangs des jeunes dans les centres urbains. Mais maintenant, il y a un auteur très intéressant, un Américain, Thrasher, qui pense... En fait, il décrit le contexte de naissance de ces gangs de jeunes dans des centres urbains. Il dit ceci, je le cite.
Oui.
C'est d'abord, au départ, une vie de famille inadéquate, la pauvreté, un environnement détérioré, une religion inefficace, une éducation défaillante et des loisirs inexistants. Donc, voilà les ingrédients qui constituent pratiquement les bouillons favorables à la naissance des gangs. Et notre pays RDC doit s'examiner par rapport à ces éléments évoqués par Thrasher.
Voilà. Pouvez-vous reprendre ces éléments qui sont des facteurs qui favorisent
les gangs? Ah oui, donc voilà. Il pense que les gangs naissent généralement lorsqu'on a affaire à des familles inadéquates.
C'est-à-dire
la pauvreté. Donc les familles rongées par la pauvreté. Un environnement détérioré. Et même la pratique religieuse y est inefficace. L'éducation y est défaillante. Et les loisirs pour encadrer les jeunes sont presque inexistants. Voilà ce qui constitue des facteurs tout à fait favorables à la naissance des groupes de jeunes. Et là, lorsque je me mets dans ma peau de criminologue, je suis tenté d'adhérer au principe très célèbre selon lequel chaque société n'a que les délinquants qu'elle se fabrique. Voilà.
Voilà. Donc on peut dire que les phénomènes Kuluna aussi, bien qu'il y a eu évolution vers le banditisme, mais on peut, ce sont des gangs des rues également.
Oui, je disais, j'établissais un distinguo entre la délinquance juvénile au sens ordinaire et le phénomène Kuluna, parce que nous voyons ces jeunes gens bien armés avec des armes blanches. Et puis, à Lubumbashi, j'ai eu la chance de rencontrer un élément de Kuluna qui avait été précipité au Katanga.
Oui.
Mais cet homme-là m'a affirmé qu'il a d'abord été formé en tant que policier. Vous voyez, il a été formé en tant que policier, puis il a déserté. Je pense, en tant que professeur aussi enseignant le cours de politique et pratique des traitements de la délinquance, il y a lieu de faire la part des choses. Hein. Donc la délinquance ordinaire, c'est tout à fait autre chose que le phénomène Kuluna. À mon avis, ceci n'engage que moi-même, le phénomène Kuluna, dans la mesure où ceux qui s'y adonnent, ils recourent aux armes blanches, mais je crois que nous devons être assez conséquents pour dire, comme la société l'affirme souvent, aux grands maux, des grands remèdes. C'est ça.
Voilà. Donc ces gangs des rues sont favorisés. Les causes de ce phénomène, c'est d'abord des familles, l'éducation familiale qui pose problème, la religion. Vous parlez également de l'éducation qui est, le système éducatif qui est défaillant. Aujourd'hui, la pauvreté, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui favorisent cela. Aujourd'hui, ces jeunes se retrouvent dans la rue et commettent des actes inciviques. Alors, quelle est la réponse efficace qu'il faut apporter à ce problème? Comment lutter efficacement contre cela?
Merci beaucoup. Comme le phénomène est très complexe, je crois que les solutions à apporter ne peuvent être aussi que complexes. Mais je préfère, peut-être en cette circonstance, proposer deux types de solutions.
Oui.
Il y a des choses que l'on peut faire dans l'immédiat, donc des solutions à court terme. Mais il y a aussi des choses que l'on doit faire à long terme. À court terme, comme nous parlons du phénomène Kuluna, je me suis réjoui de voir qu'il y a eu des unités tout à fait spécialisées de la police que l'on a commencé à former pour justement attaquer ces jeunes bandits. Je pense que c'est une initiative de l'État qu'il faut encourager. Ça c'est. Mais à long terme, nous devons beaucoup plus penser les mécanismes fonctionnels de la société. Vous voyez? Donc nous devons repenser l'éducation, nous devons renforcer la vie des familles. Parce qu'aussi longtemps que nous aurons dans notre pays des familles vulnérables, incapables d'encadrer les enfants, ne vous étonnez pas. Je l'ai dit en début de l'émission, chaque société n'a que les délinquants qu'elle se produit elle-même.
Voilà. Et quelle est la situation, par exemple, à Lubumbashi? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de délinquants, des jeunes gens, des gangs, formation des gangs dans les rues?
Bon, ici, à Lubumbashi, c'est vrai. Il y a aussi ces phénomènes, mais ici, on les appelle les chégués, donc les enfants de la rue. Il est vrai que, d'une manière ou d'une autre aussi, ces jeunes gens, ils s'adonnent à des pratiques tout à fait barbares, notamment, ils recourent, par exemple, à l'usage des lames de rasoir pour inquiéter les personnes qu'ils trouvent comme cibles vulnérables à attaquer. Et donc, c'est pour vous dire que ces phénomènes touchent pratiquement toutes les provinces du pays. C'est là que la RDC doit s'interroger. Donc, il y a un problème à faire au niveau des mécanismes fonctionnels de la société. C'est un peu comme a dit l'auteur que j'ai cité en début. Au départ, ce sont des familles inadéquates. Il y a la pauvreté, un environnement détérioré. La RDC doit s'interroger ce qu'elle fait au profit de la jeunesse. Il y a même un auteur, il y a deux auteurs belges que j'apprécie beaucoup, André Aréa et Karl Anagel, qui pensent que il n'y a pas une jeunesse au monde. Il y a autant de jeunesse qu'il y a des places que chaque société accorde à cette frange de la population. Donc, si nous reconnaissons que la jeunesse constitue l'avenir de demain, Nous devons apprécier la politique que le pays met en place pour encadrer justement ces jeunes qui constituent l'avenir de notre pays.
Alors, ces jeunes sont dans la rue, ils s'organisent en gang, bon, pour survivre, ils doivent commettre des forfaits à gauche, à droite, ils ont plein d'énergie. Est-ce que les arrêter, les envoyer en prison, c'est une solution ou bien on peut les utiliser autrement?
Les envoyer en prison, c'est trop vite aller en besogne. Il y a un criminologue qui nous fait réfléchir par rapport à la réaction lorsqu'on a affaire aux jeunes. La manière de réagir au comportement problématique a évolué à travers le temps. Généralement, les mesures punitives, les mesures répressives ne résolvent pas grand-chose. Nous sommes au temps où tout comportement problématique développé que l'on décèle dans la société doit être appréhendé comme un message qui est communiqué.
Oui.
Et je suis très content d'intervenir aujourd'hui dans cette émission parce que la RDC est en train de parler du dialogue au niveau des différentes couches de la société. Donc, lorsque les jeunes gens se comportent comme ils le font, il y a un message qui est communiqué.
Mmh.
Et je pense que l'État congolais a tout intérêt à approcher ces jeunes gens pour les écouter et analyser le sens du message qu'ils sont en train de communiquer à travers un comportement, bien entendu, qui ne nous plaît pas.
Voilà. Nous avons un auditeur en ligne, Freddy Kabamba. Il nous appelle de Lubumbashi. Freddy, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. J'ai dit Daniel Gacham, notre équipe de Okapi Service.
Vous avez la parole, Freddy.
Oui, ça va. Je vais d'abord contribuer. Ce que moi je vois, le problème qui est là ici chez nous au Congo, c'est le chômage. Parce que beaucoup de personnes sont en train de chemin. Vous voyez, si vous partez peut-être à Nairobi, tu peux trouver même un des six, il y travaille. Même celui qui n'a pas étudié, il y travaille. Mais ici chez nous, on ne travaille pas. Deuxièmement, ce sont des parents, même s'il y avait une loi qu'on vote même au niveau de l'Assemblée, qu'on peut limiter même des personnes. De mettre au monde même peut-être 4 enfants ou 5 enfants, c'est fini. C'est ça qui provoque. Parce que tu vois, si tu arrives ici à Lubumbashi, là, tu trouves surtout au niveau des marchés, même à la commune de la Kenya, il y a beaucoup de personnes. Il n'y a pas même des maisons, sont toujours comme ça en l'air. Même d'autres clients qui sortent au village, qui ont terminé les études,
oui,
ne trouvent pas le boulot, il est toujours comme ça en l'air. Notre gouvernement peut regarder d'abord à ce point-là. C'est que moi, je peux contredire encore notre invité. Notre invité a dit quoi? A dit que non. D'autres personnes utilisent les balles pour tuer des coulounes là. C'est une bonne mesure. Ce n'est pas une bonne mesure. Ce sont des Congolais. Tout le monde, quand on était...
Ben, Freddy, il n'a pas dit ça. Freddy, l'invité n'a pas dit ça. Il dit à les arrêter, envoyer en prison, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ce qu'il a dit.
Oui, monsieur, je dis, auparavant, lui a dit quoi? Il y a une mesure là qu'on peut utiliser, qu'on commence à tirer les coulounes des balles, c'est une bonne mesure. Ce n'est pas une bonne mesure, c'est ce que j'avais resté auparavant là. Ce n'est pas une bonne mesure. En 2011, monsieur, je dis, tout le monde, ceux qui avaient postulé, les députés qui étaient au niveau des présidentiels,
oui,
ils cherchaient les voix, même par les fous. Monsieur, je demande notre gouvernement de regarder, de résoudre le problème des coulounes, c'est le problème du chômage pour moi. Je m'arrête par là, merci.
Merci Freddy. Norbert Lofiti.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis partiellement d'accord avec l'intervenant. Lorsqu'il évoque le problème des chômages, c'est la vérité. Les jeunes gens, il y a un autre auteur, Paul Grell, qui pense que, avec leur vitalité, leur dynamisme, il faut vraiment faire attention à cette population des jeunes. Ils sont capables de tout. Mais alors, lorsqu'ils sont, par exemple, à l'âge de travailler, la société doit véritablement faire attention à eux pour leur donner du travail. Mais par rapport au premier volet de ces éléments, des réponses qu'il a données dans son argumentation, je n'ai pas dit qu'il serait intéressant de chercher à tuer les coulounas, mais j'ai considéré que pour protéger la société, il y a des mesures urgentes qui méritent d'être prises. C'est notamment la formation d'une brigade spécialisée appelée non pas à tuer, mais à neutraliser les jeunes gens. Parce qu'ils descendent dans la rue armés. Et malheur à quiconque a la malchance de les rencontrer. Mais je crois que la société mérite, la population mérite protection par rapport à ça. Donc c'est une mesure que je considère comme à court terme,
oui,
pour essayer, tant soit peu, de protéger la paisible population. Mais à long terme, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites au niveau du fonctionnement de notre société. Voilà.
Bien. Eli Mupemba nous appelle de Butembo, Nord Kivu. Bonjour Eli.
Bonjour monsieur le journaliste. En fait, je suis vraiment satisfait de l'émission, mais j'ai une préoccupation qui peut être aussi, par exemple, agréable aussi pour vous.
On vous écoute, c'est quoi ce que vous voulez nous dire?
Qu'est-ce que pour dire aussi des enfants qui ont des parents qui peuvent facilement leur supporter leurs besoins, quoi? Mais vous le voyez tout le temps en rue, et puis après quelques temps, vous le voyez être aussi des enfants indésirés, donc des enfants dans la rue, alors que je sais qu'il y a peut-être du moins qui peut supporter leurs besoins.
Merci. Norbert Lopici, vous avez suivi, il y a certains enfants qui ont leurs parents et les parents leur donnent tout ce qu'il faut pour bien vivre, mais ces enfants préfèrent aller se lancer dans le banditisme des rues.
Merci beaucoup. Je suis d'avis avec cet intervenant. Lorsque nous disons qu'à long terme, il y a des choses qu'il faut faire au niveau de la société, nous devons toujours considérer trois niveaux d'intervention. Il y a le niveau macro-sociologique qui concerne l'autorité de l'État, vous voyez. Mais il y a aussi un niveau intermédiaire que nous pouvons qualifier de niveaux méso-sociologiques. C'est par rapport au fonctionnement des structures censées encadrer la jeunesse. Dans toutes les sociétés du monde, il y a toujours des structures qui sont appelées à encadrer les jeunes. J'ai souvent donné l'exemple de la petite expérience qu'on a lorsqu'on voyage ailleurs, en Europe par exemple. Ce n'est pas que les jeunes gens ne posent pas des problèmes problématiques. Les jeunes gens, même de tous les continents, posent toujours à un certain âge de actes tout à fait problématiques. Mais la société tellement bien organisée, il y a des structures qui vite récupèrent la situation. Au point où quand vous y arrivez, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a vraiment le problème de la délinquance juvénile. Ça, c'est le deuxième niveau.
Oui.
Nous devons relancer les structures d'abord qui existent, les structures d'encadrement, et au besoin en créer d'autres. Mais maintenant, au dernier niveau, c'est au niveau micro-sociologique. Et là, nous voyons les parents avec les enfants. Je crois que la nouvelle loi sur la protection de l'enfant est très claire par rapport à ça. Donc, les parents ont aussi une grande responsabilité à assurer. L'État ne peut pas tout faire. Et vraiment, je donne raison à l'intervenant.
Alors, vous donnez l'exemple de certains pays où vous êtes allé, où il y a des structures qui arrivent à neutraliser ces jeunes gens pleins d'énergie et qui voudraient commettre des actes répréhensibles. Alors, quels sont ces gens des structures et comment ça doit fonctionner exactement?
Mais même ici, chez nous, ça existe. Moi, j'ai eu à mener des études avec des structures, sans faire l'apologie de certaines structures.
Oui.
J'ai vu que les congrégations catholiques ont déjà une petite avance par rapport à ça. Beaucoup de maisons d'encadrement des jeunes qui existent ici à Lubumbashi et un peu partout dans notre pays, ce sont des congrégations soit salésiennes, patati patata. Donc l'Église catholique est déjà présente et elle a une expérience vieille. Je pense que comme l'État ne peut pas tout faire, l'État a intérêt à entrer en synergie avec toutes ces structures qui ont déjà emmagasiné une expérience de longue date pour cheminer ensemble. Je crois que c'est dans ce sens-là que je voudrais m'exprimer.
Bien, nous avons en ligne Josias Segbia de Gemena, dans la province de l'Équateur. Josias, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs au Capi Service.
Alors,
merci, bonjour.
On vous écoute. Comment lutter efficacement contre la délinquance juvénile ou le phénomène des gangs, les gangs des jeunes? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça?
Oui, merci. Vous savez, je dis, ici à Gemena, le système de Kuluna est même passé de Kinshasa et dans des différentes villes pour arriver ici aussi à Gemena. Et c'est une situation préoccupante parce que, vous savez, tout ce monde-là, ce sont des jeunes qui parfois, parce que vous savez, les jeunes ont presque toutes les compétences possibles que peut-être les autorités négligent, croient peut-être que nos sociétés qui ont des compétences, non. Alors, nous autres, Parce que moi aussi, je suis du Parlement des jeunes. Nous avons notre structure Parlement des jeunes. Et à la fin, je vous inviterai aussi de nous chercher les numéros, de nous mettre en contact avec le président des jeunes au niveau de Kinshasa. Autrefois, il avait interviewé.
Josias,
alors, notre problème ici est que, oui.
Josias, ne mélangez pas les choses. Vous intervenez par rapport à ce thème. Alors, posez votre question. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? On parle de la lutte contre les gangs des rues. Alors, soyez bref et posez la question immédiatement.
Ok. Je voulais dire ceci. Que non, les jeunes ont des compétences presque. Ils ont ça. Alors, serait mieux que les gouvernements puissent prendre en charge comment intégrer les jeunes de l'école là dans la société. Alors, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant créer aussi les emplois, et surtout les emplois. Parce que ce qui amène les jeunes gens à sortir dans la rue, c'est manque d'emploi, manque d'encadrement. Il faut encadrer ces jeunes gens, les intégrer dans la société, dans là où ils peuvent se retrouver. C'est là que ce système-là va un peu s'écarter de ce comportement. Et aussi, le problème autrefois aussi, c'est quoi? Les jeunes gens d'aujourd'hui, parfois, ils apprennent. Ils ont le diplôme d'État, diplôme de gradué, diplôme de licence. Mais quand il y a lancement d'offres d'emploi, on va exiger rien que les compétences, non, avoir autant d'années d'expérience et tout ça.
Merci,
mais il faut d'abord intégrer la jeunesse, lui faire voir ce qu'il doit faire et à partir de là qu'il va
faire. Oui. Merci, Josias. Raphaël Toumung, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute. Quelle est votre question?
Oui, avant de poser mes deux petites questions, je voulais ajouter quelque chose du fait que la délinquance ou les agrégats sociaux, c'est un phénomène universel qu'on ne trouve pas seulement au Congo, mais on le trouve dans tout le monde, dans tous les pays. Comme question que je voudrais poser à notre invité, la première, nous avons combien de formes de délinquants ou des agrégats sociaux? Et puis la deuxième question, entre la famille, l'État, la société, quel est l'élément qui favorise ou qui augmente le taux de la délinquance?
Bien, merci Raphaël. Norbert Lupici.
Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants pour l'intérêt qu'ils accordent à cette question qui a trait à la jeunesse. Et je voudrais déjà tenter de rejoindre le premier intervenant qui reconnaît, comme moi, un dynamisme, une vitalité, un point numérique lorsqu'on parle des jeunes. C'est une catégorie sociale qu'il faut vraiment considérer avec beaucoup de délicatesse. Ils sont dynamiques et capables de tout grâce à leur vitalité. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord avec lui quand il parle des mesures d'encadrement. Lorsqu'on examine même l'historique de cette notion de délinquance juvénile, vous allez voir que la littérature nous montre que la notion de délinquance juvénile est née avec la naissance de l'industrialisation, avec la naissance de l'urbanisation. Il y a eu des masses de jeunes que la société capitaliste de cette époque n'a pas su encadrer. Et toute cette population des jeunes a constitué un danger. Et on devait ainsi prendre des mesures de protection, de défense de la société. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui quand il propose les mesures d'encadrement. Mais ce n'est pas à l'État d'agir tout seul. J'ai évoqué, lorsque j'intervenais bien avant là, le trois niveaux d'intervention. Au niveau macro-sociologique, certainement c'est l'État. Et ici, je rejoins même le deuxième intervenant qui demande, entre l'État et la famille, qui a la part des responsabilités la plus lourde. Mais tous les deux, mais l'État au niveau macro-sociologique doit faire des choses. Je l'ai dit, pour renforcer, pour éliminer la vitalité des familles. Aussi longtemps que nous aurons des familles vulnérables, les familles mal payées, les familles pauvres, les familles incapables d'encadrer les enfants. Mais la délinquance ne peut pas être éliminée. Mais également au niveau de famille, comme l'État ne peut pas tout faire, il y a une responsabilité à assumer. Quand on met au monde des enfants, on doit être responsable.
Voilà. Et il dit quelles sont les formes, ça c'est Raphaël Lumbashi qui dit quelles sont les formes des délinquances qui existent.
Bon, les formes des délinquances sont multiples. Hein? Moi, je pense que j'ai, d'abord, lorsque j'intervenais en début de l'émission, j'ai refusé d'accepter, d'adhérer à la notion de délinquance juvénile. Mais j'ai préféré plutôt parler des situations problèmes impliquant les jeunes. Mmh. Les situations problèmes impliquant les jeunes sont nombreuses. Vous voyez, très nombreuses. Les jeunes prennent du chanvre. Les jeunes veillent dans des débits de boissons. Les jeunes cambriolent les maisons. Donc, il y a une diversité. Hein. C'est la raison pour laquelle un auteur très intéressant qui a osé définir la notion de délinquance, Claude Walgraaf, il pense que la délinquance est une catégorie conceptuelle hétéroclite. Il y a beaucoup de situations et de faits qu'on y trouve. Et lui, il pense que la meilleure façon de définir la délinquance,
oui,
c'est de l'éclater. Il y a ce qu'il appelle la délinquance symptôme, il y a la délinquance passagère et la délinquance systématisée, qui ressemble un peu à cette forme de délinquance que nous décortiquons, qui a trait au fonctionnement de la société. Donc, je me résume en disant qu'il y a beaucoup de formes et de situations, problèmes qui impliquent les jeunes. Donc, la délinquance a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes.
Beaucoup de formes.
Alors, mais chaque société a sa manière de gérer toutes ces formes-là.
Alors, Norbert Lupici, vous avez dit tout à l'heure qu'il est important d'arriver à neutraliser ces jeunes gens au lieu de les tuer ou les envoyer en prison. Vous avez dit, cité par exemple l'Église catholique qui les prend déjà en charge. Alors, il y a un auditeur qui a posé la question et qui nous a dit de Guémena qu'il faut carrément créer de l'emploi, leur donner de l'emploi. Et voilà, le problème sera résolu.
Mais résolu totalement, non. Mais d'abord, nous devons faire la part des choses. Il y a un intervenant qui a fait voir que le phénomène de délinquance juvénile est un phénomène universel. C'est vrai. Même nous, criminologues, lorsque nous analysons des situations, nous ne pouvons pas nous dire qu'on peut arriver un jour à éradiquer totalement la criminalité ou la délinquance. La délinquance est là, nous vivons avec elle, mais nous devons apprendre à la gérer. Je crois que la création de l'emploi, c'est une parmi tant d'autres des mesures que l'on peut imputer à l'État. Il y a un auteur, Paul Grêle, qui dit que les jeunes, tellement qu'ils ont envie de vivre ce qu'ils appellent l'été de leur vie, ils n'acceptent pas l'humiliation. Mais ils ont fini des études. Ils n'ont pas, il n'y a pas de débouché d'emploi. Mais que voulez-vous qu'ils fassent? Et là, il y a même un autre auteur que nous pouvons évoquer, celui qui a parlé de l'anomie, les noms ne viennent pas. Il dit que, mais en fait, la criminalité ou la délinquance, c'est une forme d'innovation. Hein? Dans la société, il y a des choses qui sont valorisées et tout le monde cherche à atteindre ces choses valorisées, qu'on appelle les buts culturels. Mais en même temps qu'on valorise certaines choses, une vie aisée, l'argent, les femmes, les véhicules. Mais la société doit s'organiser pour permettre à la population,
oui,
de passer par des moyens légitimes. Mais quand les moyens légitimes manquent, il y a alors de l'innovation. Et quelle forme d'innovation? N'importe quoi. Vous voyez? C'est ça.
Voilà. Vous dites que là, l'emploi, c'est l'une des solutions, mais ce n'est pas la solution définitive. Mais il y a par exemple, certains parlent des formations, il faut les amener dans des centres de formation, l'apprentissage d'un métier. Et à l'époque, il existait des centres des jeunes, des cercles récréatifs où les jeunes gens étaient pris en charge. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus.
C'est pour cela, lorsque j'ai parlé des interventions au niveau mésosociologique, au niveau des fonctionnements des structures, j'ai dit que l'État a tout intérêt à travailler en synergie avec les structures existantes. Il y a déjà une expérience qui a été accumulée. Je vous informe que ma recherche doctorale a porté sur les trajectoires de sortie de la rue des jeunes. C'est-à-dire, comment les jeunes quittent la vie des délinquances pour se refaire une place dans la société. Et là, nous avons eu des révélations tout à fait intéressantes,
oui,
des jeunes gens qui passent par les maisons d'encadrement. C'est ce que nous avons appelé la sortie par l'axe institutionnel. Donc, il y a vraiment un encadrement à apporter aux enfants pour les aider à quitter la situation de délinquance.
Je l'ai dit et je le redis toujours. Il ne suffit pas d'attraper les Koulouna pour dire arrêtez de verser dans la délinquance. Mais faut-il aussi prévoir les mesures de substitution? Qu'est-ce qu'ils peuvent après, quand ils auront arrêté ce qu'ils font? Parce que la délinquance peut être exploitée comme un mode de vie, un mode de gestion de la vie. La société, elle est indifférente à notre situation. On fait n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut les écouter. Il faut les écouter et proposer des mesures de substitution à la délinquance qu'ils sont en train de développer dans la rue.
Bien. Merci Norbert Lupici, sociologue et criminologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon début à des semaines à Lubumbashi.
Merci beaucoup et je remercie tous les intervenants. Merci.